Oui.
Comme un seul corps, mais le décor, on était étranger. Mes désirs mélangés, bien mettre de l'encre dans les nuits. Même s'il y a des cris, attention ne pas me déranger.
Soir de pleine lune, le vendredi 18 novembre 1994, dès 19h, la pleine lune. Café Restaurant soufflera sa première bougie et vous propose à vous toutes, auditrices et auditeurs, une dégustation de vin du domaine des Balisiers qui accompagnera un petit buffet apéritif ou un petit ou un grand, j'en sais rien, plus un orchestre de jazz, un septet, le septet dollar qui vous fera danser. Ariane Jacquet, cette fête, vous la placez dans votre restaurant, mais aussi dans le quartier, vous conviez tout le monde à venir vous rejoindre. Et je crois que ça, c'est une chose importante pour la pleine lune, c'est d'être intégré dans son quartier. Vous avez déjà fait des projets avec, par exemple, la maison de quartier de la Jonction. Tout à l'heure, quand je suis venue vous chercher au restaurant, j'ai pu admirer une expo de lieux du quartier où l'on propose d'imaginer un autre aménagement. Vous êtes en train et vous faites parfois des projets avec les habitants du quartier. Est-ce que c'est comme une chose essentielle dans le projet radio pleine lune, la pleine lune, restaurant la pleine lune.
Il y a concurrence là,
oui.
Mais c'est une gentille concurrence. Effectivement, pour nous, c'est une, au fond, ce restaurant, c'est une aventure. Et je crois que, en ce qui me concerne, je le prends comme un moment de très grande liberté et de créativité. Nous avions envie d'ouvrir nos portes plus largement au quartier. Et nous avons pris contact avec, effectivement, la maison de quartier de la Jonction, qui organise très souvent des manifestations et qui nous y convie. Nous avons pris des contacts aussi avec, par exemple, au moment du festival Bâti, avec les organisateurs pour voir s'il n'y avait pas moyen d'échanger quelque chose, en tout cas, qui viennent se régaler chez nous avec leurs danseurs, leurs chanteurs, leurs comédiens. Le musée d'ethnographie n'est pas loin, pourquoi ne pas en profiter pour tisser des liens? Et je pense que c'est très important que ce lieu devienne aussi un lieu d'accueil pour ces personnes. Alors, avec la maison de la Jonction, nous avons de temps en temps des animations. En mai dernier, nous avons organisé une soirée de contes avec des conteurs de plein palais, c'est-à-dire des gens, des jonquillards, comme on les appelle, les habitants de plein palais. Il y avait là un conteur suisse, une conteuse indienne, Rajni, et un conteur burkinabé, qui habitent tous les trois la Jonction. Et ça, c'était une très belle soirée. Nous organisons aussi de temps en temps de la musique, des diaporamas, quelques petits événements pour animer le lieu, et pour se faire connaître, et pour être en lien avec les gens du quartier.
En tout cas, je crois que c'est un aspect particulier pour nous en tant que gens qui pouvons aller nous installer autour d'une de vos tables, parce que je crois que c'est trop rare, cette vie de quartier, de plus en plus rare. Et donc, je crois que c'est, de savoir qu'il y a des lieux qui mettent l'accent sur cet aspect-là, c'est d'autant plus important. Alors Ariane, vous allez souffler votre première bougie, ça fait une année que la pleine lune existe et je suppose que c'est aussi l'heure d'un premier bilan. C'est déjà un moment de travail et d'expérience, une année, et est-ce que vous pouvez déjà tirer un certain nombre de points favorables, négatifs, critiques à corriger? Peut-être en lien avec cette petite phrase que j'ai lue dans un document que vous publiez, je ne sais pas destiné à qui, mais qui m'a beaucoup frappée de par l'hypothèse qu'elle pose. Vous vous demandez si votre pratique en tant qu'association, et donc je suppose comme lieu comme la pleine lune, ouvrira peut-être les portes de la communauté à ces personnes accidentées de la vie, comme vous les avez appelées si joliment tout à l'heure.
Alors, je vais peut-être commencer par répondre à la première question. Le bilan, ou à la première... Le bilan après une année, à quel niveau? Je pourrais parler de l'aspect commercial. Dire, voilà, ce bistrot, nous l'avons ouvert il y a une année, comment ça marche aujourd'hui? Je pense qu'il marche bien, il pourrait marcher encore beaucoup mieux. Mais nous sommes heureux et heureuses d'avoir une bonne clientèle. En tout cas, à midi, ça marche bien. Le samedi, ça marche bien. Nous avons un projet spécial pour le samedi, mais ça, je ne veux pas encore l'entamer maintenant parce que ça sera pour une autre émission. Mais le bistrot, en soi, marche pas trop mal. Le soir, c'est beaucoup plus calme. Il y a tout le temps du monde, mais peu de monde, et ça pourrait marcher mieux. Ça, c'est pour l'aspect commercial. En ce qui concerne l'aspect, peut-être, de donner une possibilité de travail à des personnes qui ont été des accidentées de la vie, j'ai envie de dire que c'est bien. Nous avons eu tout le temps pratiquement entre 12 et 14 personnes qui ont travaillé avec nous, mais que ça pourrait être encore beaucoup mieux si on n'avait plus besoin de trajet et garder la pleine lune, mais dans un autre contexte. J'approfondis ce que je veux dire. L'idéal, ce serait d'arriver à ce que nous tissions des réseaux professionnels suffisamment grands pour accueillir, par exemple dans les restaurants, puisque je parle de la pleine lune, dans les restaurants de quartier, des restaurants de la ville de Genève, une personne qui aurait besoin de retrouver du travail, de se reconfronter à la réalité professionnelle, de retrouver un emploi ou une occupation, parce que ce n'est pas seulement du travail, c'est surtout une occupation. Ça veut dire que les 14 personnes qui sont chez nous, l'idéal, ce serait qu'elle puisse, elle, aller travailler une chez Bovenpeak, la deuxième au Rosaire, la troisième à l'Échalote, la quatrième au Bac Café qui est à côté, la cinquième au Bain des Paquis, et j'en passe. Et que ces personnes, une seule, c'est tout à fait possible. On pourrait imaginer qu'elles soient accueillies dans une équipe de cuisine et de service. Et qu'à côté de ça, il y ait une équipe, alors qui est un peu barbarement nommée ingénierie sociale, mais c'est elle le beau qui est peut-être le meilleur, je ne sais pas, qui soit une équipe de travailleurs sociaux qui puisse faire le lien avec ces personnes et les patrons. C'est-à-dire, admettons peut-être qu'une personne aille travailler au Café des Bains qui est à côté de chez nous, une personne qui a des difficultés profondes, mais qui a envie de s'occuper, qu'elle puisse travailler là-bas, mais qu'elle soit en lien avec notre équipe de travailleurs sociaux qui pourrait la soutenir et aller voir le patron et discuter des problèmes, ou s'il y a des problèmes, s'il n'y a pas de problème, on ne va pas aller en discuter. Mais de voir un peu de quelle manière cette personne pourrait être intégrée dans l'équipe. Et ça, ce serait vraiment arriver à une... Alors là, on utilise le mot d'intégration dans tout son plein sens du terme. C'est-à-dire que ce ne serait pas un café-restaurant qu'on ouvrirait pour des personnes comme ça, des accidentés de la vie, mais chacun aurait, et ça pourrait être une imprimerie, ça pourrait être n'importe quel autre lieu de travail, si on arrivait à accueillir une personne. Ça pourrait être un chômeur, ça pourrait être...
Mais pourtant, Ariane, je crois que vous, déjà, la notion de structure et de projet que met sur pied l'association Trajet, c'est déjà une critique à ce qui se fait ailleurs de ce qu'on appelle les ateliers protégés. On ne veut pas parquer ces gens qui ont des difficultés tous ensemble et puis leur faire des conditions tellement particulières que de toute façon, ils sont toujours maintenus dans un état de marginal ou d'isolé parce qu'on les regroupe tous ensemble. Donc il y a déjà une critique à l'égard de cette situation-là par la création des projets de trajet. Donc vous pensez qu'il y a encore un pas supplémentaire à franchir là ?
Oui, oui, je pense qu'il y a un pas supplémentaire qui n'est pas de mon ressort, bien sûr, mais qui est de ressort de nous tous, de la collectivité, de la communauté. Et trajet, je pense, il va y travailler. On y viendra peut-être une fois. Les choses ne se créent pas du jour au lendemain, mais ce serait l'idéal. Pour nous, ce serait l'idéal. Et je crois qu'il y a beaucoup de personnes. Vous savez, Trajet est une association qui actuellement accueille 65 à peu près personnes. Quand je dis des personnes, ce sont des travailleurs, des salariés qui sont soit des professionnels d'une profession, imprimeur, restaurateur, etc., des travailleurs sociaux, assistantes sociales, des aides ménagères, etc. Et il y a un pool de gens extraordinaires qui ont des idées géniales. Et il y a de tout parmi ces personnes. Il y a des créateurs, il y a des artistes, il y a des thérapeutes, enfin bon. Moi, je pense que si on se met tous à y réfléchir sérieusement, à ce projet qui est peut-être utopique, mais pourquoi pas est-ce qu'il appartient aussi qu'à l'association Trajet ? Je ne pense pas. Je pense qu'il y a d'autres associations ou d'autres personnes qui pourraient y réfléchir.
Mais d'ailleurs, je crois qu'il y a d'autres lieux où ce type d'idées, de projets, d'intégration des gens qui ont des difficultés avec leur santé mentale, pas seulement physique, et d'adaptation à notre société avec toutes ces contraintes épouvantables parfois. D'autres associations qui œuvrent déjà un peu dans ce sens. Est-ce qu'il vous arrive de vous rencontrer et de mettre ensemble toutes ces idées et aussi peut-être de faire passer, de proposer à une personne d'aller plutôt là que là parce qu'on lui propose une alternative qui lui convient peut-être mieux.
Oui, alors nous travaillons beaucoup par exemple avec Arcade 84 qui est un lieu d'accueil ergothérapeutique mais qui a aussi un petit bistrot et on va y manger, on travaille avec eux. Souvent les personnes que Arcade accueille viennent ensuite à Trajet pour monter d'un cran si vous voulez, enfin c'est pas peut-être le bon terme monter d'un cran, mais pour être dans quelque chose qui est plus professionnel. Arcade est professionnel, mais nous, on est un bistrot ouvert matin et soir, ce que n'est pas Arcade. Et ça, un bistrot, traditionnellement, est ouvert le soir. Ça, c'est encore une difficulté, parce que le soir, on a plus de peine à trouver des gens qui veulent travailler le soir. C'est les moments de fatigue, de creux. Mais en même temps, ça fait partie de la réalité. Alors, nous travaillons avec Arcade, nous travaillons avec un autre lieu que j'aime beaucoup, qui s'appelle l'appartement de jour, qui est alors un lieu thérapeutique, un lieu de création artistique, mais qui n'est pas un lieu de travail, et qui accueille des personnes en difficulté, surtout des jeunes, et qui fait un magnifique travail, je dirais, dans la dentelle. Ils prennent le temps d'écouter la personne, d'aller dans ses besoins, d'élaborer avec elle des projets, avec un soutien souvent artistique. Ça peut être de la peinture, de la poterie, de la photographie, du théâtre, de l'écriture. Enfin, je ne sais pas très bien, ils font beaucoup de choses très intéressantes. Et nous sommes en lien avec ces personnes. C'est évident que on a tout intérêt à travailler ensemble. Je crois que c'est grâce à toutes ces associations que la personne peut-être a une chance de se construire.
Vous venez de parler, par exemple, des jeunes qui vont plus souvent peut-être à l'appartement de jour. Vous, au bout d'une année, vous faites le bilan que vous accueillez plutôt qui ? Des jeunes, des personnes au milieu de leur vie, des hommes, des femmes ? Est-ce qu'il y a des catégories qu'on peut faire, des gens qui sont en difficulté, qui sont venus en particulier demander de l'aide dans un projet comme Trajet et La Pleine Lune ?
Alors, je dirais que la tranche d'âge, c'est donc l'âge adulte, ça va jusqu'à 40-45 ans. Il y a peu de personnes plus âgées que ça. Et ce sont surtout des hommes, parce que la cuisine appartient aux hommes, n'est-ce pas ?
Ah bon ?
Vous êtes bien d'accord, Catherine ?
Oui, n'est-ce pas ?
On en a toute une expérience. On a tous eu l'expérience que la cuisine appartenait aux hommes. Enfin, j'imagine que chez vous, c'est comme ça que ça se passe. Enfin, les hommes, c'est vrai que les chefs de cuisine sont des hommes. Et en cuisine, il y a plutôt des hommes. Et c'est très difficile. Nous avons en ce moment une femme, une magnifique personne qui travaille en cuisine, et je la trouve très courageuse parce qu'elle est en lien, quand elle vient travailler chez nous, elle est avec 6 ou 7 ou 8 hommes et elle est la seule femme, et c'est assez remarquable parce que c'est dur d'affronter le monde des hommes pour une femme qui est fragile, disons, fragile. Déjà pour nous, je trouve que c'est difficile. Travailler avec 8 hommes, c'est pas évident. Mais quand on est quand on a une certaine fragilité, c'est pas facile. Et c'est très intéressant parce que au bar et au service, alors je dirais que c'est 50% des hommes et des femmes, ou peut-être même un peu plus de femmes. Mais c'est surtout des hommes qui viennent à la pleine lune. Et je vous dis la tranche d'âge 20-45 ans.
Alors, au bout de cette année, vous conviez les gens à faire la fête avec vous et je suppose que vous espérez bien que tout va continuer et se développer.
Ah oui, la fête ne fait que commencer.
Voilà.
Bien sûr, nous avons plein de projets, je ne peux pas vraiment les évoquer ce soir-là. Moi, j'aimerais aller encore plus loin dans notre spécificité, peut-être inviter les travailleurs de la pleine lune à prendre plus de place qu'ils n'en ont en réalité aujourd'hui chez nous, où tout est quand même très hiérarchisé. Il y a une patronne, il y a un chef de cuisine, il y a une collaboratrice commerciale qui est... tout est très hiérarchisé. Et puis, j'aimerais que les travailleurs de la pleine lune aient l'occasion, la possibilité, et ça c'est notre travail, de leur donner encore plus de place. Et pour le moment là, c'est une grande remise en question, c'est-à-dire qu'après une année, je dis, nous n'avons pas laissé encore suffisamment de place à ces personnes. Réfléchissons, comment pouvons-nous leur donner plus de place? Et ça, ça fait partie du bilan, où je dis, nous devons être pleins d'humilité et les entendre encore plus que nous n'avons bien voulu les écouter jusqu'à présent.
Eh bien, Ariane Exaquet, je vous remercie infiniment d'être venue au bout d'une année nous parler de ce qui se passait à la pleine lune. Ça fait longtemps que j'avais envie que vous veniez nous en parler. Oui, vous aviez envie de nous répéter
de vous inviter tous et toutes à venir demain. C'est pas demain, c'est vendredi soir dès 19h à la pleine lune où l'orchestre de jazz Septet de l'Art vous fera danser, comme je le dis. Tout le monde est le bienvenu et nous aimerions que la fête soit grande et belle. Merci.
Merci
et puis peut-être une pensée pour les personnes qui sont à Boismermet et à Berne emprisonnées.
Nous sommes toujours avec eux et nous espérons que vous êtes nombreux à défiler dans la rue avec nous tous.
Tu peux te vanter d'avoir trouvé le rôle. T'es pas drôle. Si tu crois qu'on va te regretter. Oui, tu t'es pas trompé. Une boîte à cigares, des papiers à lettres, une feuille de buvard, personne à ta fenêtre. Là où tu m'attendais, où on se trouvait. Tu peux te vanter d'avoir trouvé le rôle. Tu crois qu'on va t'oublier? Oui, tu vois, c'est raté. Déjà, tu nous manques, ami à la manque. Mais qu'est-ce qui t'a pris? Pourquoi t'es parti? D'avoir trouvé le rôle. Ouh, t'es pas drôle. Image loupée, le film est coupé de nos complicités. Secret à l'oreille, morsure du soleil. Même quand tu râlais, au moins tu vivais. Thank you.
Vous aurez reconnu, bien sûr, Catherine Lara. La semaine prochaine, dans Remue Ménage, eh bien, nous allons retrouver notre amie de l'inédite, Annette Zimmermann, qui viendra nous présenter deux livres différents, entre autres une biographie d'une mathématicienne russe. Nous discuterons comment se fait-il que les femmes scientifiques sont toujours... des fantômes quasiment dans l'histoire de la science, y compris celle qui apparemment ont joué des très grands rôles, comme paraît-il la femme de monsieur Einstein, qui a beaucoup contribué à ses découvertes et dont on ne parle jamais, bien évidemment. Et puis, nous aurons aussi des informations sur le festival Black Movie qui va avoir lieu à la maison de Saint-Gervais d'ici une dizaine de jours en compagnie de Katharina von Flotow et qui est un grand moment puisque c'est l'occasion de faire comme une sorte de grande histoire du cinéma africain. Et entre autres, j'essaierai de rencontrer la seule et unique réalisatrice africaine qui sera montrée durant ce festival. Je vous en parlerai aussi la semaine prochaine. Voilà. Alors pour aujourd'hui, je vous propose que nous finissions on se remue ménage avec des voix splendides, les voix des femmes de Doni Zoulan, qui sont des chanteuses corses. Denis Zoulan dans Remue Ménage Radio Zone 93.8. C'était la voix magnifique de femme corse, Denis Zoulan, les femmes de Lille. Et c'est la fin de notre émission, c'est la fin de Remue Ménage. Et je salue encore une fois notre ami séquestré à Bois-Mermet. Et nous espérons que vous êtes nombreux en ce moment dans la rue. Nous allons rapidement rejoindre la manifestation qui a lieu à Genève, qui est partie de la Place Neuve, qui doit être quelque part dans les rues de Genève, pour soutenir la demande de libération de nos amis séquestrés. Et dans quelques instants, eh bien, c'est les informels de Radio Pleine Lune. À la semaine prochaine.
Ce sera tout à fait... Ce ne sera rien, rien que de la musique. Ce ne sera rien, rien que des mots, des mots. ne dérangera pas, ça n'empêchera pas de jouer aux cartes, ça n'empêchera pas de dormir sur l'autoroute, ça n'empêchera pas de parler d'argent, ce sera tout à fait comme à la radio. Ce ne sera rien, juste pour faire du bruit. Le silence est atroce, quelque chose est atroce aussi.
D'une façon générale, cherche à limiter les possibilités d'action et d'indépendance des femmes. Donc la plupart des livres qui sont sortis à l'occasion de la conférence du Caire font amplement mention de cette politique et ont repris notre définition du fondamentalisme, c'est-à-dire pas du tout un mouvement religieux, mais des mouvements politiques qui utilisent la religion, la culture ou l'appartenance ethnique. Et je crois que pour nous, c'était quelque chose d'important d'avoir réussi à faire passer ce message-là, parce que ça cesse de concerner les femmes sous la musulmane, mais ça devient quelque chose de beaucoup plus vaste. Cette conférence au Caire a mis spécialement en lumière, et vraiment pour tout le monde, la collusion entre le patriarcat et l'extrême droite de l'Église catholique et le patriarcat et l'extrême droite des musulmans. Ils ont fait cause commune et c'était très très bien que ça soit exposé par eux et non plus par nous, pour une fois, aussi directement. Donc quand nous avons décidé d'aller au Caire, ce qui n'a pas été une décision facile, notre but, c'était donc de rendre encore plus public, d'attirer encore plus l'attention que nous ne l'avions fait dans le mouvement féministe sur le fondamentalisme et la façon dont il est mondial et dont il est partout. Et puis aussi, bien entendu, ce que nous faisons toutes dans ce type de conférence, c'est-à-dire beaucoup de networking, rencontrer beaucoup de femmes et avoir une occasion de discuter avec elles. Et je crois vraiment que c'est pour cette raison que ça vaut la peine d'aller dans les conférences officielles. Et le troisième volet qui nous paraissait important, c'était que ça avait lieu en Égypte, donc dans un pays musulman, et que c'était pour nous une occasion de venir voir comment on pouvait soutenir les luttes des femmes en Égypte. Alors en fait, ça ne s'est pas vraiment passé comme on l'avait espéré et comme on avait tenté de le préparer. Les femmes égyptiennes que nous avons rencontrées avant la conférence, c'était des femmes qui étaient engagées dans la préparation de la conférence dans le mouvement féministe. Et quand on leur a demandé quelles conséquences ça aurait sur les groupes de femmes en Égypte, quelle était la situation au Caire, c'est-à-dire quelle était la situation sur le plan de la sécurité au Caire, par exemple, à la fois politique et pour ceux qui venaient et puis pour les Égyptiens eux-mêmes, on n'a jamais eu de réponse franche et correcte, c'est-à-dire on nous a toujours dit « mais il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème de sécurité, etc. » Je te laisse traduire, je pense. Mais en fait, dès le niveau de la préparation, les femmes égyptiennes qui étaient présentes donc dans la préparation de ce que les femmes allaient faire au Caire, ont dit très clairement, il ne faut pas parler de sexualité, il ne faut pas prononcer le mot de sexualité. On ne veut pas non plus parler des lesbiennes et de la sexualité des lesbiennes, etc. Et la position du reste des femmes a été très ambiguë parce qu'à la fois on ne voulait pas les mettre en péril et en même temps ça paraissait des renoncements un peu importants, pour dire le moins. Je voudrais vous signaler quand même que le film qui a été tourné à l'occasion de la conférence sur les droits humains à Vienne, le film du tribunal sur les violences faites aux femmes, a été expurgé pour être passé au Caire. Et qu'en particulier, le témoignage de la femme algérienne que nous avions fait venir à Vienne n'est pas passé parce qu'il était sur le fondamentalisme. Et le témoignage de la lesbienne qui était venue témoigner à Vienne n'est pas passé non plus. Donc il y a eu une autocensure qui me paraît un élément tout à fait important à signaler. Honnêtement, en revenant, je ne porte pas de jugement de valeur et je ne sais pas s'il fallait le faire ou pas le faire. Mais c'est quand même dur à avaler. Enfin, c'est en particulier le témoignage de la copine algérienne qui a depuis été blessée dans une manifestation, etc. Ça nous paraissait central que ça passe. Et puis le témoignage des lesbiennes aussi.